Sir Jorah Mormont. Depuis le jour où il s'était vu contraint de rejoindre à pied le Khalasar, les Dothraki l'avaient affublé du surnom dérisoire de Khal Raemar, le roi claudiquant. Le lendemain, son ignorance obstinée lui fit accepter l'offre de prendre place dans une carriole, alors qu'on réservait ce genre de véhicule aux eunuques, aux infirmes, aux femmes en couche, aux grands vieillards et aux tout-petits. Il y gagna simplement le sobriquet supplémentaire de Khal Ragat, le roi charrier. Loin de se douter néanmoins qu'il se gaussait de lui, il se persuada que Drogo s'excusait par ce biais des avanies infligées par Daenerys. Cette dernière l'ayant prié d'épargner à son frère la honte de la vérité, Sir Jorah s'inclina, non sans observer qu'un rien de vergogne serait bienvenu. Mais pour vaincre ensuite la répugnance du Khal à laisser Viserys recouvrer son rang dans le cortège, elle avait dû maintes fois plaider, tout en prodiguant chacun des secrets d'alcôve appris de Doréa. « Où donc est la ville ? » s'étonna-t-elle comme on franchissait l'arche de bronze. Bordée d'antiques souvenirs rapportés de toutes les contrées pillées au cours des siècles par les Dothraki, la route plongeait dans les vagues vertes sans révéler le moindre habitat ni la moindre population.
« Plus loin, » répondit Sir Jorah, « au bas de la montagne. »
Par-delà, la porte se discernait de part et d'autre, héros dérobés, dieux ravis. Les divinités oubliées de cités défuntes brandissaient vers le ciel leurs foudres mutilées. Du haut de leur trône, des rois de pierre aux traits tavelés, rongés, que la nuit des temps condamnait à l'anonymat, regardaient passer la Khaleesi sur son cheval argenté. Au linteau de marbre dansaient toujours de gracieuses vierges, mais les urnes des Coéphores ne déversaient plus que le vent. De ci de là se dressaient des monstres à même l'herbe, noirs dragons de fer à l'orbite sertie de joyaux, griffons rugissants, mantricores tout dard dehors, et cent autres fauves innommables. De certaines statues émanait un charme inouï. D'autres se signalaient par une si terrifiante hideur qu'à peine le regard osait-il s'y poser. Selon Sir Jorah, les secondes devaient provenir des contrées de l'ombre, au-delà d'Ashai.
« Tant de monuments, tant de pays !» s'émerveilla Daenerys, tandis que sa pouliche ondoyait au pas.
Son frère se voulait moins impressionné.
« Babiole de cité morte » ricana-t-il.
Bien qu'il exprimât prudemment son mépris dans l'idiome des sept couronnes, incompréhensible à la plupart des Dothraki, Daenerys se surprit à décocher un coup d'œil furtif vers les gens de son casse, derrière, afin de s'assurer que nul n'est entendu. Il reprit, goguenard.
« Le seul art dans lequel ces sauvages excellent est celui de dépouiller les peuples plus civilisés et de tuer. »
Il se mit à rire.
« Ah ça, pour tuer, ils savent s'y prendre. C'est le seul intérêt qu'ils aient à mes yeux.
Ils sont mon peuple désormais, » protesta-t-elle.
« Tu ne devrais pas les qualifier de sauvages, frère. « Le dragon parle comme il veut, » répliqua-t-il, toujours dans la même langue.
Puis, lorgnant par-dessus l'épaule Ago et Rakaro qui les talonnaient, il leur adressa un sourire narquois.
« Tu vois, des sauvages, même pas capables de comprendre le langage des êtres civilisés. »
Sur le bas-côté, il avisa d'un air maussade un monolithe rouillé de lichen et haut de 50 pieds.
« Nous faudra-t-il encore longtemps brinque-baller parmi ces ruines avant que Drogo me donne mon armée ? Je commence à en avoir assez d'attendre. »
Il doit d'abord présenter la princesse aux doges caléennes et...
« Cette bande de commères, je sais !»
coupa Viserys.
« Puis la pitrerie des prophéties sur le marmot, vous m'avez dit ça. Mais qu'en ai-je, affiche, moi ? Moi, j'en ai marre de bouffer du cheval et la puanteur de ces sauvages me lève le cœur !»
Il renifla la large manche flottante de sa tunique où il avait imaginé de dissimuler un sachet de senteur. Piètre subterfuge, en l'occurrence, vu la crasse de son vêtement. Toutes les soirées, tous les gros lainages qu'il traînait sur lui depuis Pentos, le rude voyage les avait souillés, la sueur pourrie.
« Le marché de l'Ouest fournira des mets plus au gré de votre majesté, » dit Sir Jorah d'un ton conciliant. « Les négociants des cités libres y viennent vendre leurs produits. Quant au Khal, il vous tiendra parole à son heure. »
« Il y a tout intérêt, » maugréa Viserys. « La couronne qui m'est promise